Ici, c'est vous.
Et Nicolas Fauveau.
Sur Ici Gironde.
La question du jour. Au travail comme à la maison, comment alléger sa charge mentale, ce flot d'informations qui nous submerge par moments. Alors souvent, c'est cette charge mentale, on dit depuis qu'on a des enfants, c'est plus pareil, il y a des tas de trucs, il faut y penser, et on se retrouve littéralement submergé par des problèmes qui n'en sont pas forcément. Cette charge mentale qui est supportée par les femmes, 76% d'entre vous, 44% pour les hommes, et puis cette charge mentale, on la retrouve évidemment dans les entreprises. Vous allez témoigner comment l'alléger, comment la supporter. 05 56 19 10 10, on en parle ensemble jusqu'à 10h.
Ici, c'est vous.
Au cœur de vos préoccupations.
Sur Ici Gironde.
Tous les matins, on vous donne la parole. Réagissez via WhatsApp au 05 56 19 10 10. Et vous passez évidemment en direct. Ce matin, on va parler de la charge mentale. Et je ne suis pas tout seul ce matin. Élodie Arthé qui est avec nous. Bonjour Élodie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Beaucoup travaillé, hypnothérapeute qui a beaucoup travaillé sur ces questions de mal-être, de charge mentale. Et vous avez pas mal de trucs pour l'alléger. Vous allez nous en parler, nous
avec
les présenter
plaisir.
Tout à l'heure. On va donner la parole à Isabelle qui est avec nous au téléphone. Bienvenue, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors, pour vous présenter, aide-soignante, 34 ans de carrière à l'hôpital, victime d'un burn-out, et vous nous dites, je sais ce que c'est que la charge mentale. Parlez-nous de votre histoire. Et c'est vrai que souvent, on parle de charge mentale chez les profs et puis chez les personnels hospitaliers. On a l'impression que vous n'êtes pas épargné, loin de là.
Alors, oui, tout à fait. Vous avez bien résumé pour ma situation. En fait, j'ai fait un burn-out en février 2025 et là maintenant, je suis donc en dépression puisque le burn-out, c'est vraiment l'état où le corps s'effondre. Mmh. Vous êtes complètement épuisé. Donc là, c'est vraiment choquant psychologiquement parce que vous ne vous reconnaissez plus. Moi, perso, ça a mis plus de 6 mois à ce que je reprenne des forces, mais c'est vraiment troublant. Enfin, au début, c'était du genre... Je prenais ma douche, ça me fatiguait, il fallait que je dorme après. Enfin,
d'accord. Et Isabelle, avant que le corps ne lâche, cette charge mentale, vous la supportiez, vous l'avez vue grandir d'année en année pendant ces 34 ans de travail comme aide-soignante à l'hôpital. Vous sentiez qu'il y a un truc qui n'allait pas?
Eh bien, en fait, bon, là, je vais avoir 55 ans en fin d'année. Mmh. Tout au long de ma vie, bon, je suis peut-être aussi de nature... quelqu'un qui veut toujours être un peu perfectionniste. Donc, quand la santé va, en fait, tout va, c'est ce qu'on dit. Donc, on fait les choses à cœur, on fait les choses à fond, on compte pas nos heures, et on fait. Et puis là, on va dire 2 ans avant le burn-out, les douleurs sont apparues chez moi. Donc, d'abord... dans la hanche. Alors, je me suis dit, tiens, ça y est, je suis bonne pour une prothèse de hanche. Franchement, c'était l'âge qui a masqué un peu tout ça, parce que je me disais, oui, les douleurs, plus on vieillit, plus on en a. Mmh. Et j'ai pas du tout percuté, alors que finalement, le corps déjà m'envoyait des signaux et je n'ai pas prêté attention. Donc, ça a été la hanche, ça a été tout le bassin. Après, ça montait jusqu'à la colonne vertébrale. Et là, je peux vous dire qu'au niveau de ma marche, c'était plus une marche, c'était... Je me traînais.
Oui,
et là,
limite dû à un handicap physique. Dans la tête, qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque? Parce que justement, vous disiez « je suis perfectionniste », et ça souvent quand on est touché par cette charge mentale, on a tendance à trop vouloir bien faire, et à force de faire trop de trucs à la fois, bah, finalement on lâche, et il y a ce sentiment d'être écrasé par les tâches successives qu'on a à assumer, et qui sont pas faciles.
Eh ben, en fait, on veut agir partout, parce que ce soit à la maison ou au travail. Alors oui, effectivement, perfectionniste, c'est toujours vouloir faire, mais il y a tant à faire. Et c'est ça le problème, il faut savoir déléguer des tâches, il faut savoir se dire, bon ben là je vais parler comme si j'étais guérie, hein, on va dire, mais en fait il faut se limiter à sa fonction, et puis quand c'est l'heure de partir, c'est la fin de la journée, il faut laisser la tâche après aux autres.
Aujourd'hui Isabelle, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Vous avez des trucs, je ne sais pas, que vous ne travaillez plus, donc qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je ne sais pas, vous en profitez pour sortir, des balades en forêt, rencontrer des amis, comment ça se passe?
Alors, effectivement, il faut se réapprendre. Quand le psychiatre m'avait dit « il faut réapprendre à vivre », au début, je n'avais pas compris la phrase, maintenant je la comprends. vous êtes tellement démoli de l'intérieur et de la tête, hein, faut se l'avouer, qu'il faut justement ne pas refaire le même chemin, le même parcours qu'avant. Donc là, je me suis mis au sport, alors que chose avant, je disais « oh ben plus tard », mais là maintenant je fais de la natation, 2 fois par semaine, environ 1h30 où je suis dans l'eau, et franchement là c'est un élément qui m'apporte beaucoup.
On oublie tout dans le bassin. Ouais.
Ah ben là c'est super, ouais. Bon, moi c'est la natation, quand je peux aller en forêt avec une amie, eh ben, le grand air et puis le connexion à la nature. Et après, on va dire, chacun va pouvoir trouver sa bulle de douceur, la chose qui va lui apporter le plus. Donc moi, c'est le sport et la nature. Bon. D'autres, ce sera d'autres activités, mais il faut se trouver cette petite bulle où vous allez vous ressourcer. C'est ça qui est très important.
Eh ben, Isabelle, espérant que vous arriviez à refaire totalement surface et à aller mieux, et retrouver une paix intérieure et puis une bonne santé physique. Je vous remercie beaucoup pour ce très beau témoignage en ouverture d'émission ce matin.
Excusez-moi, juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai que 3 minutes, ça passe vite.
C'est vrai.
Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour tous les sinistrés de votre région. Mmh. Et merci à tous les pompiers qui se sont déplacés et qui malheureusement ont perdu la vie pour certains. Donc, eux aussi, pour les sinistrés, la santé mentale va être un sujet très important à aborder, puisqu'il ne faut pas qu'ils restent seuls, il faut qu'ils soient aidés aussi psychologiquement, ils auront besoin.
Merci Isabelle, merci beaucoup.
Ici, c'est vous.
Votre quotidien
sur Ici Gironde.
Avec une experte, Élodie Arthé. C'est marrant, parce qu'avant, c'est un terme récent, la charge mentale. Qui a inventé la charge mentale?
Ah, c'est une femme, c'est drôle, hein.
Ah ouais.
Dans les années 80, une certaine Monique Eco, qui a inventé ça, enfin, qui l'a nommée, elle existait déjà, et en fait, elle le nommait très bien. C'est en fait la capacité, le petit cadeau qui vient avec l'être humain, hein, qu'on a tous en fait, de devoir penser simultanément à 2 choses qui appartiennent à 2 mondes différents. Exemple, on est là, Nicolas, on discute, et vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger à midi. Par exemple.
Non, je vous écoute avec attention. Ah oui, donc, c'est vrai c'est assez nouveau ce concept. Avant, on disait ouais, il faut arrête de te foutre la pression. On entendait ces phrases-là.
En fait, ça a toujours existé, mais on l'abordait pas de la même manière. Et puis après, on va aussi dire les choses. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte notre époque qui n'existait pas du temps d'autres générations.
Monique Eco, donc en 84.
Exactement.
Eliane, avec nous. Vous le saviez, Eliane, que c'est une femme qui avait inventé ce terme de charge mentale. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Bonjour.
Non, pas du tout.
Bon, ok. Cette charge mentale, vous la ressentez où? À la maison, au boulot? Comment est-ce que vous l'affrontez,
Alors, moi,
Eliane?
Je ne travaille plus, mais c'est vrai qu'à une époque, la charge mentale, oui, franchement, je l'avais, oui, au boulot. Parce que j'avais plusieurs patronnes qui étaient assez catégoriques dans ce qu'il fallait que je fasse et tout, et plus on en faisait, on avait l'impression qu'on n'en faisait pas beaucoup.
Quoi, et arrivé à la retraite, ça veut dire, est-ce que la charge mentale, elle a disparu ou est-ce qu'elle a vraiment diminué?
Elle est différente.
Ah.
Elle est différente. Moi, maintenant, je prends davantage le... Bon, après, vous savez, j'avais un commerce, j'ai été patronne, donc... Et là, c'est vrai que, la charge mentale, elle y était. Parce que vu le travail qu'il y avait à faire, c'était du matin au soir, et on se demandait si on allait y arriver, donc voilà.
Alors, aujourd'hui, vous nous dites c'est différent. En quoi c'est différent, Eliane?
Alors, maintenant, c'est différent parce que je prends plus de temps de vivre moi, de m'occuper de moi, et de faire ce que j'ai envie. Et en fait, s'il reste des choses à faire, et bien je me dis, demain, il fera jour. Hein.
Oui, on peut se permettre le luxe de procrastiner un peu.
Oui, et puis, vous le dites très bien, en fait, c'est s'octroyer des bulles de déconnexion mentale, en fait. Et se remettre au centre de ses besoins, en fait. De se dire qu'on a le droit de se prioriser, que ce n'est pas de l'égoïsme. Et comme vous l'avez dit si bien, de prendre de la hauteur. On n'est pas chirurgien, on n'opère pas des gens à cœur ouvert, on n'est pas trader. Donc déjà, ça fait baisser la pression.
Et ceci dit, Eliane, même, on peut quand même se payer le luxe de faire des journées à rallonge. Quand on ne travaille plus,
Absolument.
On peut profiter plus longtemps.
Absolument.
Et ça, c'est important.
Prendre du temps pour soi.
Vous avez un mari, Eliane, est-ce qu'il supporte une partie de la charge mentale à la maison ou c'est vous qui globalement portez tout?
Il s'occupe beaucoup de dehors. Ça, c'est vrai que je ne fais pratiquement rien dehors. C'est lui qui s'occupe du tour de la maison. Voilà. Et, Ils m'aident quand même à la maison, oui, parce que bon, voilà, il va voir que je suis embêtée, que je suis en retard ou n'importe quoi, c'est lui qui met le couvert, il va passer l'aspirateur, il faut pas lui sortir son aspirateur, l'aspirateur c'est son dada, donc il passe à l'aspirateur.
Tom, il est génial votre mari, il est top.
Et oui, parce qu'en fait, on dit en effet que les femmes portent la charge mentale,
c'est une
stat qui est là. En revanche, la société elle évolue, on a des hommes, enfin moi j'ai au cabinet, j'ai des hommes qui élèvent tous seuls leurs enfants, qui ont une charge mentale incroyable, et qui gèrent sur tous les fronts, des aidants aussi, on n'en parle pas assez, des gens, vous l'avez dit comme vous Eliane, qui ont leur commerce, qui sont à la tête de leur entreprise, qui ont une charge mentale où il faut qu'ils portent tout et qu'ils gèrent tout de A à Z, des étudiants aussi, on n'en parle pas assez, étudiants qui ont à la fois le job pour payer les études et à côté gérer
et
les études.
Et qui font des journées épouvantables.
Exactement, donc...
Ils s'occupaient aussi énormément. Quand les enfants étaient gamins, ils s'occupaient énormément des enfants.
Mais il est super, votre mari.
Bah gardez-le. Hein.
Comment il s'appelle ouais. Merci Eliane pour ce témoignage.
Ici, c'est vous.
Votre quotidien
sur Ici Gironde.
Et vos témoignages concernant alors la question du jour. Au travail, comme à la maison, comment alléger sa charge mentale? On a l'impression que c'est la maladie du siècle, hein, que ce soit à la maison ou au boulot, cette charge mentale qui est dure, très dure à supporter. Bonjour Laurence, on vous écoute et on est avec Élodie Arthé, qui est une spécialiste de cette charge mentale, qui est hypnothérapeute à Senon. Bonjour Laurence, et votre témoignage il va être important, parce que vous êtes vous-même aidante et vous souhaitiez témoigner sur ce rôle des aidants. Parlez-nous de votre cas en particulier Laurence.
Oui, bon, je suis maman à la retraite, et avant ça j'étais auxiliaire de vie, mais je suis aidante depuis la naissance de mon fils. Et puis là, ça fait plus de 20 ans que je l'ai à la maison H24, et la charge mentale, elle est là.
Hein. Ouais, c'est puissance 10. Votre fils souffre d'un handicap, lequel, Laurence?
Oui, il est autiste.
Ok. Au quotidien, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous êtes aidante, mais est-ce que vous êtes également assistée par, la famille, le papa de votre fils, des professionnels de santé qui viennent?
Je suis divorcée et monsieur est décédé. Et mes enfants, enfin les frères et sœurs de mon fils, sont en Dordogne et dans le Lot. Donc ouais. Voilà. Et du coup, je suis toute seule.
C'est vous qui assumez tout, oui. C'est vous qui assumez
tout. Voilà. Et il ne faut surtout pas contrarier Sa Majesté, comme je dis, des voix.
Ouais.
Sinon, ça part en cacahuète. Voilà. Et des fois, j'ai des vols de bols de lait. J'en suis à la 4e télé. Avec tout ça, il faut
tenir. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait tenir, Laurence, en dehors de l'amour vous portez à votre fils, évidemment?
Oui, je fais de la généalogie à défaut de voyager. Je me permets quelques jours de vacances quand il va en colonie adaptée. Mmh. Une fois par an, et sinon je me prive de pas mal de choses que j'adore, et parce que je peux pas l'emmener avec moi, parce qu'en plus de son handicap d'autisme, il a des difficultés à marcher.
Et Laurence, il faut, quand vous dites à défaut de voyager, je voyage dans le temps en faisant de la généalogie. Alors ce sont des petites parenthèses évidemment, mais j'imagine que l'aide que vous apportez à votre fils, c'est quoi? C'est 17, 18, 20 heures par jour sur 24,
hein. 24, ouais.
Oui, faire à manger, l'amener à ses rendez-vous, faire son linge ou faire sa chambre, parce que lui il fait rien.
Et est-ce que bonjour Laurence, est-ce que vous avez un soutien psychologique? Est-ce que vous avez quelqu'un? Un espace dans lequel vous pouvez vous déposer et déposer tout ce que vous avez sur le cœur et dans la tête?
Pas du tout.
Ça serait peut-être important de voir comment il serait possible de pendant que votre fils est en sécurité et avec des personnes de confiance, que vous puissiez vous octroyer...
Qui?
Soit un psychologue, soit...
Mais non, mais qui c'est qui garde mon fils? Parce que personnellement, quand je vais chercher le pain, je le laisse à la maison.
Oui, vous ne pouvez pas le laisser plus longtemps.
Je ne peux pas le laisser pendant des heures tout seul, parce que Oui, en plus, il peut même mettre le feu à ma maison.
Bon, Laurence, bon courage de tout cœur avec vous. Merci pour ce témoignage. On pense à Laurence, à son fils, évidemment, et puis à tous les aidants qui, aujourd'hui, sont auprès d'un enfant handicapé ou d'une personne âgée. Également,
c'est un engagement, une dévotion incroyable.
Voilà. Merci, Laurence.
Ici, c'est vous.
Et Nicolas Faveau.
Sur Ici Gironde.
Beaucoup de témoignages très intéressants ce matin. Laurence, aidante de son fils autiste. On a eu tout à l'heure Isabelle qui fait beaucoup de bénévolat en tant que présidente de la Fédération des parents d'élèves des lycées d'Agen et d'Assaut. Là aussi avec un engagement qui prend du temps, qui remplit le cerveau. Isabelle également qui est passée tout à l'heure aide-soignante après 34 ans de carrière à l'hôpital qui nous disait « Je sais ce que c'est que la charge mentale, ça m'a conduit directement vers un burn-out ». Élodie Arthé avec nous. Je vais vous dire un truc, hypnothérapeute à ce nom. Moi, j'y croyais pas du tout à l'hypnothérapie. Avant de tester pour arrêter de fumer, ça a été radical, ça a marché d'un coup. Et je me suis dit, c'est pas du toc du tout.
Non, c'est pas du fake, c'est pas de la magie, ça fonctionne réellement.
On n'est pas du tout dans un spectacle de musical. Et vous allez nous dire en quoi l'hypnose peut venir à la rescousse de celles et ceux qui n'arrivent plus à supporter leur charge mentale et qui aimeraient l'alléger un peu.
Absolument. Déjà, il y a un dénominateur commun à la charge mentale, c'est le faire, le fait de faire. On parlait tout à l'heure des listes de la rentrée, des listes en tout genre. Les gens me le décrivent très bien au cabinet. Ils me disent, voilà, je me fais des listes pour tout. Je m'envoie même des mails à moi-même, histoire de ne rien oublier. Imaginez le truc.
Ah ouais, c'est fou. Ouais.
Et la satisfaction d'avoir rayé sur sa liste. Et puis, si on n'arrive pas à la fin de la journée à terminer toutes les tâches qu'on s'est, qu'on s'est imposé de faire, mais on culpabilise, on se met une pression. Et la dame tout à l'heure qui a témoigné, qui parlait de son burn-out, ça peut être une des conséquences d'une charge mentale qui est assez incroyable. Si on n'a pas des soupapes, si on n'arrive pas à vider notre disque dur, voilà ce qui se passe.
Sans aller jusqu'au burn-out, on a l'impression, si vous faites la sortie des classes, ou la rentrée un matin, il y a toutes les mamans sur le trottoir, puis il y a toujours la super maman, celle qui a l'air de gérer le truc, mais dingue. Alors
qui a la maison, qui est impeccable, qui arrive à aller au sport.
Ouais, vous dites, mais moi je suis minable, je n'y arriverai pas. Là aussi, c'est une forme de compétition
malsaine, on est d'accord. Ouais. Déjà, si j'ai un conseil à donner, c'est arrêtons de se comparer, parce que ça, c'est à ce jeu-là, tout le monde perd. Et on adore ce genre de personne, et tant mieux pour elle si elle arrive à tout faire. Par contre, peut-être qu'on ne voit pas tout ce qui se passe et qu'elle a du soutien. Et que, se dire déjà qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est déjà très bien. Par rapport au fait que l'hypnose est un super outil, je vais vous dire deux mots là-dessus parce que ça va permettre à notre cerveau de retrouver du calme et aussi d'associer le fait d'avoir des responsabilités au calme. Parce que ça, c'est possible. En général, la responsabilité, qu'elle soit parentale, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit dans le boulot, qu'elle soit familiale, elle est souvent associée. Il faut que j'arrive et que je gère.
C'est pas calme tous les jours. Voilà. On est dans l'urgence.
Absolument. Et vous me tendez une perche, Nicolas, quand vous me parlez d'urgence, ça va être important de différencier, de nuancer l'urgence de l'importance, parce que ce sont deux choses différentes. Avec l'hypnose, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller travailler sur l'origine, la source de cette charge mentale. C'est assez courant au cabinet que les personnes me disent « Oh ben moi, j'ai des enfants, j'ai un travail prenant et c'est là que vient ma charge mentale ». C'est bien souvent, ça se loge bien souvent ailleurs, puisque c'est très souvent multifactoriel et que ça échappe très souvent à notre conscience.
Ici, c'est vous.
Au cœur de vos préoccupations.
Sur Ici Gironde.
Et c'est à qui le tour d'alléger sa charge mentale? Comment ça se passe une séance d'hypnothérapie? Donc, Élodie Arthé, vous êtes hypnothérapeute à ce nom.
Absolument.
On fait le grand ménage dans le cerveau.
Exactement. On fait le grand ménage dans le cerveau, dans le sens où je vais vous accompagner à reprendre le contrôle justement sur votre mental, en fait. Parce que quand on a une charge mentale importante, c'est qu'on subit un peu son mental. L'idée, ça va être avec la séance d'hypnose, on va pouvoir aller ramener de l'espace et de la place là où il y avait un encombrement de pensée. L'état modifié de conscience que je vais induire, qui est un état naturel, je le rappelle, accessible à tous, va permettre à notre cerveau de lâcher cette partie analytique pour que l'inconscient puisse prendre le relais. Grâce à ça, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? On va pouvoir apaiser, réguler le système nerveux. Mmh. Ça, c'est la clé pour apaiser la charge mentale. On va créer l'espace de déconnexion, on va distinguer l'urgence de l'importance, on va apprendre à se prioriser, on va se libérer de la peur du contrôle. On est sans arrêt en train de contrôler. Une des clés de la libération de la charge mentale, c'est d'apprendre à être dans l'instant, à accepter qu'on ne maîtrise pas tout, d'accueillir le changement, de voir comment justement la résistance au changement va pouvoir la travailler, et aussi inclure des moments de rien, en fait. Parce qu'à force de remplir les agendas, à force de faire vite, faire bien, faire beaucoup,
ben
on en oublie juste de vivre et d'être simplement. Quoi.
Une séance, plusieurs séances, ça dure combien de temps une séance d'hypnose ?
Une séance d'hypnose avec moi, en première séance, c'est 2 heures.
2 heures, ok.
En première consultation. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire des séances de suivi. J'ai une approche qui est très particulière. Je vous invite à, voilà, où je mêle plusieurs outils, notamment la programmation neurolinguistique. Et juste pour terminer, j'ai un accompagnement qui s'appelle Relax, où j'accompagne des personnes sur plusieurs semaines sur la charge mentale. Je me tiens à votre écoute si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Élodie.
Avec grand plaisir, Nicolas.
Merci à toutes pour vos appels ce matin.